Voici un texte, l'un des plus beaux de l'Évangile, qui m'a résisté depuis toujours, et après 35 ans de ministère, je crois que j'ai trouvé la solution. Et je voulais vous la partager. Ce texte, c'est celui de la résurrection de Lazare. En Jean 11, vous savez, Jésus était ami avec Marthe, Marie et Lazare, et Marthe et Marie viennent dire à Jésus que leur frère est mort. Après, c'est très compliqué, il y a de grands débats, de discussions entre Marthe, Marie, les habitants du coin, Jésus. Et finalement, Jésus arrive au tombeau où Lazare était enfermé. Il dit « Lazare sort » et le mort ressuscite en sortant du tombeau. Ce texte, évidemment, pose de très gros problèmes, même si c'est évidemment l'un des plus beaux qu'il soit. À la base, c'est un miracle. Bon, ça ne me pose pas de problème. Il y a beaucoup de miracles dans l'Évangile et ça a cessé de me poser des difficultés. En particulier, la quasi-totalité des miracles de l'Évangile sont des guérisons. Bon, donc Jésus était un guérisseur, voilà, c'est pas un problème. Il y a des tas de guérisseurs encore aujourd'hui dans le tiers-monde et un peu partout, jusque dans les campagnes. On ne sait pas très bien comment ils font, mais ils y arrivent et ils font exactement les mêmes guérisons que Jésus. Donc, Jésus était un guérisseur, c'est pas un problème. Comment faisait-il? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment font les guérisseurs. Sans doute un mélange de psychosomatique, de connaissances empiriques. Et puis, Jésus avait certainement un charisme très fort. Ceux qui le rencontraient étaient transformés tellement intérieurement et psychiquement que leur santé, même physique, pouvait s'améliorer. Donc ça, je n'ai pas de problème là-dessus. Après, il y a simplement le problème, c'est que là, il ressuscite un mort. Donc c'est un peu plus que de guérir un lépreux. Surtout que le psychosomatique pour un mort, c'est quand même assez limite, hein, parce que c'est compliqué de le convaincre de quelque chose, donc déjà, c'est difficile. Après, il y a dans l'Évangile quelques miracles qui ne sont pas des guérisons, mais là aussi, j'ai une explication rationnelle pour tous, j'ai pas de problème, je sais très bien ce qui s'est passé, l'affaire n'est pas très mystérieuse, ce qui est intéressant, c'est le sens qu'en tire Jésus comme une sorte de parabole. Et donc, tous ces miracles ne me posent pas de problème, sauf celui de Lazare, que je n'arrivais pas trop à expliquer. Pourtant, le sens spirituel est magnifique. Je vous ai dit, c'est certainement un des plus beaux textes de l'Évangile, parce que comme pour tout miracle, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qui s'est passé matériellement, mais c'est le sens que ça a pour nous aujourd'hui. Et le sens de cette réanimation de Lazare, je dis réanimation parce que ce n'est pas une résurrection comme celle qui nous est promise. Lazare revient à la vie, mais il va remourir, si je peux dire. Donc, le sens de cette réanimation est intéressant justement parce que il ramène quelqu'un à la vie. Et vous le savez que dans l'Évangile, le mot « vie » ne désigne pas seulement la vie physique. Par exemple, dans la parabole du fils prodigue, le père du fils prodigue, quand le fils revient, dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie ». Véritable résurrection, en effet. Et Paul, à plusieurs reprises, mais en particulier en Éphésiens 2, dit « Nous qui étions morts par nos fautes, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ, il nous a ressuscités ». Et donc, on voit que dans l'Évangile, il y a effectivement cette idée que l'important, ce n'est pas tellement d'avoir un rabiot de vie physique. Une fois que l'on est mort, on meurt, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du cours des choses. Mais qu'on peut être ramené de la mort à la vie, parce qu'il y a d'autres manières d'être vivant ou mort dans notre existence. Et l'enjeu, là, c'est de savoir comment le Christ peut ressusciter quelqu'un spirituellement, moralement, comment il peut nous relever, comment il peut nous remettre en marche lorsque nous sommes effondrés, lorsque nous sommes enfermés dans la peur, dans le deuil, dans la crainte, dans le désespoir, dans le doute, comment est-ce que le Christ arrive à nous relever justement, à nous redonner la vie, à nous redonner envie de vivre et pouvoir nous remettre en chemin et nous remettre en marche et nous remettre et nous réintégrer dans la société. Alors là, dans ce récit de Lazare, où une fois de plus, il faut s'identifier à Lazare et à ce qui se passe, se dire, c'est pas une histoire passée, c'est une histoire qui peut être la nôtre ou celle de nos proches. Enfin, c'est une histoire que nous pouvons expérimenter dès ici même. On voit que l'enjeu, c'est donc de relever quelqu'un qui est enfermé et que les autres, je dirais, enfonce encore davantage en l'enfermant dans un tombeau et dit celui-là, il est foutu, il n'y arrivera plus. Et il l'enferme dans ses enfermements, il l'enferme dans ses échecs, il le fout dans un tombeau, ils mettent une pierre devant et ils disent, comme dans l'histoire, et non seulement il est mort pour nous et en plus il pue. Ben, c'est ça, alors nos traductions disent, il sent déjà. Bon, vous imaginez la violence de cette personne qui est effondrée et tout le monde est désespéré, même les autres, ils disent il n'y a plus d'espoir pour lui, c'est terminé, il ne se relèvera pas. Et Jésus le relève. Jésus va le libérer de ses enfermements. Jésus va dire aux autres, fichez-lui la paix, laissez-le aller, enlevez les bandelettes, enlevez cette pierre qui l'enferme, laissez-le sortir. Et il dit à Lazare, sors, et Lazare parvient à sortir de ce tombeau, de cet enfermement. Cette histoire est bouleversante. Mais en même temps, on voit que ce n'est pas simple du tout. Le texte est tellement long que pour ne pas vous lasser, j'en ai coupé les trois quarts, mais lisez-le et vous verrez à quel point ce n'est pas simple du tout de remettre un humain en marche et de relever quelqu'un, c'est compliqué. On voit tout ce cheminement extrêmement complexe des sœurs qui sont inquiètes, le Jésus qui est loin, qui vient du chemin, des questionnements, des dialogues, des révoltes même des uns et des autres, des pleurs, des discussions, des professions de foi, des leçons de théologie. Et tout cela dure et finalement Lazare est toujours enfermé et ce n'est qu'à la fin que finalement Lazare peut être libéré. Mais je remarquerai que, en fin de compte, Jésus va passer un, peut-être deux versets avec Lazare, et va en passer 50 avec l'entourage. Et là, je pense à ma sœur qui est pédopsychiatre et qui soigne des enfants et qui se dit, mais en fait, il faut passer plus de temps avec la famille qu'avec celui qui ne va pas bien. Ben, c'est ce que fait Jésus. C'est vrai qu'il passe plus de temps à soigner l'entourage que la personne elle-même, qui finalement, dans cette histoire, c'est ma conviction, est en grande partie victime de son entourage. Et donc voilà cette histoire extraordinaire de Jésus qui relève quelqu'un, le réanime et le réintègre dans la société. Et pour ça que je vous disais que cette histoire est sublime et je la garde. Donc le message, je le comprends. Mais je ne peux pas quand même, parce que voilà, c'est ma formation scientifique, je ne peux pas me débarrasser de la question de se dire, mais que s'est-il passé vraiment? Est-ce que Jésus a vraiment ressuscité un mort? Alors, la tentation première, c'est de dire, bah oui, puisqu'on nous le raconte, c'est que ça s'est bien passé comme ça. Mais je crois que cette tentation est mauvaise et qu'il ne faut pas, on ne peut pas dire une chose pareille pour deux raisons. Une raison interne et des raisons externes au texte. La raison interne, pour laquelle je ne crois pas qu'il faille lire le texte littéralement, historiquement ou journalistiquement. La raison interne, c'est une raison théologique. C'est qu'en effet, quel est le message de ce texte? Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme idée? Et si le message, c'est textuellement que Jésus est fils de Dieu et qu'il peut même ressusciter un mort s'il le veut, admettons ce premier point, mais alors, pourquoi il ne le fait plus aujourd'hui? Alors bon, vous perdez votre arrière-grand-mère qui a 300 ans, vous n'êtes pas triste, mais moi j'ai enterré des gens, il n'y a qu'un enfant qui meurt. Et pourquoi Jésus ne le ressuscite pas? Pourquoi? C'est insupportable, si vous voulez. Alors vous me direz, oui, mais Jésus, parce que là, Jésus était vivant, et maintenant et il est mort, et attendez, ah non, dites pas ça. On l'a expliqué ça il y a quelques dimanches, Christ est ressuscité. Et si vous dites que le Christ ressuscité est moindre que le Jésus vivant, c'est que vous ne croyez pas dans la résurrection du Christ. En tout cas, moi, je pense que le Christ ressuscité est exactement aussi puissant que le Christ vivant terrestrement. Et donc, si Jésus pouvait ressusciter un mort physiquement, c'est qu'il le peut encore. Et s'il ne le fait plus, pourquoi? Parce qu'il ne vous aime pas? Parce que vous manquez de foi? À ce moment-là, vous êtes même coupable de la mort de vos... Non, ce n'est pas possible. Ça ne tient pas debout, cette histoire. Ou alors, on va à l'église, et puis on dit, vous savez, c'est formidable, il y a un Jésus, il ressuscite les morts parce qu'il est fils de Dieu. Et on dit « Amen, Alléluia, bonne nouvelle, vive le Fils de Dieu, vive Dieu !» Et puis vous, ben, débrouillez-vous avec vos morts, hein, parce que c'était une bonne nouvelle pour les autres, mais pas pour vous. Alors moi, aller dans une église pour qu'on m'explique les bonnes nouvelles pour les autres qui ne me concernent pas, merci beaucoup. Et si c'est ça la bonne nouvelle que l'on prêche dans les églises, je comprends qu'on n'y aille pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, autrement dit, je vous disais, c'est pas possible cette histoire. Donc, la seule lecture possible de ce texte, c'est celle que je vous ai faite tout à l'heure. C'est une lecture symbolique. Mais j'ai une autre raison pour vous dire que c'est pas possible littéralement. L'autre raison, elle est, vous disais-je, externe au texte. C'est que ce récit est extraordinaire, spectaculaire. Mais il ne se trouve que dans l'évangile de Jean. Matthieu, Marc et Luc n'en parlent pas. Ça, c'est étrange. Parce que si vraiment ça s'est passé comme ça, c'est quand même c'est l'apothéose de l'action du Christ. C'est la plus belle des guérisons, c'est le plus beau des miracles. Et ça a dû marquer les foules. Pourquoi Matthieu, Luc, Marc et Luc n'en parlent pas? C'est bizarre, ça. Surtout qu'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où, dans un endroit reculé. C'était à Béthanie, à quelques centaines de mètres de Jérusalem. Et avec Marthe et Marie, c'est plus proche. Donc ça ne tient pas debout, ça. Ce n'est pas possible, si vous voulez, que ça ait eu lieu, et que si ça a eu lieu, que les autres évangiles l'oublient. Ça ne va pas. D'où la deuxième tentation, c'est dire, eh bien, c'est inventé. C'est inventé, c'est une fable pour illustrer un message. Certains disent ça, il y a même des théologiens qui vont jusqu'à dire l'histoire de Jésus, elle est tellement extraordinaire que même Jésus est inventé. Alors allons-y. Bon, moi je ne crois pas à ça. Tentation fausse de dire que ces récits sont trop beaux pour être vrais et que donc c'est inventé pour une sorte de parabole plus ou moins vécue ou je ne sais rien. Je ne crois pas à ça. Je crois que les évangiles nous disent quand même ce qui s'est passé, en gros. Bon, peut-être que, évidemment, oui, ça peut être un peu arrangé, ça peut être modifié, amplifié, amélioré, mais que globalement, je crois que si Jean nous le raconte, c'est qu'il y a eu un événement donnant naissance à cette histoire. Mais quel événement ? Alors, il y a l'explication rationaliste habituelle, que je ne dis qu'en passant, de dire, bon, peut-être que Lazare n'était pas vraiment mort. Vous savez, il y a des cas de coma profond, de catalepsie, de gens où on croit qu'ils sont morts et puis quelques heures après, ils se réveillent. Ça existe, c'est tout à fait possible. Et donc, les rationalistes, les libéraux du 19e siècle disaient, eh bien voilà, Lazare n'était pas vraiment mort, il croit qu'il est mort, il l'enferme, Jésus passe par là et il dit, Lazare sort, et comme Lazare s'était réveillé entre-temps, eh bien, il sort du tombeau. Ben oui, mais vous remplacez un miracle par un autre. Comment Jésus, en passant devant le tombeau, ou même avant, pouvait-il savoir qu'il ne s'agissait pas d'une vraie mort, mais d'une catalepsie? C'est-à-dire que là, Jésus serait une sorte de voyant extralucide. Il aurait pu penser une situation quand même très improbable, pas impossible, mais très improbable. Et donc, on remplace un miracle par un autre, mais ça n'arrange pas grand-chose. Alors voilà, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution que je pense que vous la trouverez nulle part ailleurs. J'ai découvert une chose, un texte assez étonnant, un texte mystérieux qui s'appelle « L'évangile secret de Marc », qui donne une piste très inattendue à cela et très sérieuse. Voilà l'histoire, c'est qu'en 1958, dans un monastère orthodoxe grec, dans le désert de Judée, à Marsaba, on découvre un texte apparemment très ancien qui semble être une lettre de Clément d'Alexandrie, qui est né vers 150, enfin, qui a vécu la deuxième moitié du IIe siècle. Et dans cette lettre de Clément d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie dit la chose suivante. Il dit, Marc a rédigé en fait deux versions de son évangile. Une courte pour un peu tout le monde, et puis une un peu plus développée pour les initiés. Et dit Clément d'Alexandrie, la version courte, ben, c'est la nôtre. Et la version plus développée, eh ben, elle est plus ou moins perdue. Mais Clément d'Alexandrie en cite quelques passages. Cet évangile secret de Marc est un texte controversé, mais qui est quand même très pris au sérieux par beaucoup en pensant qu'il est authentique. En tout cas, il a été publié dans les écrits apocryphes chrétiens dans la Pléiade, avec une introduction qui prend très au sérieux le texte, et beaucoup de théologiens pensent que ce texte est probablement authentique. Et donc, Clément d'Alexandrie cite deux passages de cet évangile développé de Marc, et en particulier en Marc 10, 46, où dans notre texte, il y a clairement un problème. En Marc 10, 46, je vous lis notre version à nous de Marc, il est écrit, « Ils arrivèrent à Jéricho, et quand il fut sorti de Jéricho avec ses disciples, il fit autre chose. » Alors, on dit, mais il entre à Jéricho et puis il sort. C'est quoi cette histoire? Et effectivement, l'évangile secret de Marc dit, « Ils arrivèrent à Jéricho, là, il se passe quelque chose qu'il explique, que pas très compliqué d'ailleurs. » Et ensuite, quand il sortit de Jéricho, il rencontra l'aveugle qu'il va guérir. Donc c'est très plausible, effectivement, il y a clairement un problème dans notre texte à nous. Et puis le deuxième passage qu'il cite est beaucoup plus important et nous concerne particulièrement dans notre enquête sur Lazare. En effet, après Marc 10, 34, après que Jésus ait annoncé sa mort, texte lui-même qui suit l'histoire du jeune homme riche, c'est important de le noter, on a ce passage-là que je vous lis. Ils arrivèrent à Béthanie, et il y avait là une femme dont le frère était mort. Et elle vint, et elle se prosterna devant Jésus et lui dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais les disciples la réprimandèrent. Et Jésus, rempli de colère, partit avec elle au jardin où se trouvait le tombeau. Et aussitôt se fit entendre une voix forte venant du tombeau. Jésus s'étant approché, roula la pierre loin de la porte du tombeau, et il entra dans l'endroit où se trouvait le jeune homme. Il étendit la main, il le releva en lui saisissant la main. Le jeune homme, l'ayant regardé, l'aima, et il se mit à supplier Jésus de demeurer avec lui. La proximité de ce récit avec la résurrection de Lazare est stupéfiante. Et il se pourrait bien, en tout cas, c'est l'hypothèse que je suis prêt à admettre, qu'il s'agisse là du récit manquant des synoptiques. Je vous disais, pourquoi il n'y a pas le récit de la résurrection de Lazare dans les autres évangiles? Eh bien, il est là, ce récit, il se trouve là, à mon avis. Et il y a là l'explication de l'incompréhensible don de double vue de Jésus, sachant que le mort n'était pas vraiment mort. L'explication dans ce texte, elle est simple, c'est qu'effectivement, probablement qu'ils ont enterré Lazare un peu vite, qu'il s'est réveillé, et à ce moment-là, c'est lui qui a gueulé comme un âne. Parce qu'il s'est réveillé dans la tombe, et il a dit « Oh, oh, laissez-moi sortir !» Donc Jésus arrive et dit « Bah attendez, foutez-lui la paix, il le libère !» Et donc du coup, tout s'explique. Tout s'explique. Alors Jean a repris ce récit et l'a enjolivé avec son « Lazare sort !» Et puis Lazare, en fait, hurlait. Donc c'est très possible et la raison est sauve. Voilà l'explication du texte. Jésus probablement en a profité pour faire réfléchir ses disciples sur la question de la vie éternelle, de la résurrection, de la relevée des morts, de la foi, de l'espérance, et il a fait tout un enseignement. Et donc voilà, je suis tranquillisé parce que ma raison est sauve et je garde ce message magnifique et je crois que, avec quelques arrangements, ce récit est authentique. J'ai une autre piste, alternative ou complémentaire, mais je crois complémentaire. Parce que cette histoire de catalepsie, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et donc, j'ai une autre hypothèse qui me semble extrêmement sérieuse. C'est la suivante. Il y avait une coutume, vous savez que il y avait une communauté essénienne à Qumran, à côté de la mer Morte. Et on sait les liens de proximité qu'il y avait entre Jésus et Qumran. Qumran était une communauté de moines dont on dit qu'ils étaient célibataires. Et Jésus avait une grande proximité avec eux, à un tel point que certains se sont demandé si Jésus n'avait pas été un Essénien. Personnellement, je ne le crois pas. Aujourd'hui, on ne le dit pas, mais en tout cas, il y avait des liens. Je peux vous donner deux preuves assez rapidement. L'une, c'est que quand Jésus va faire préparer la scène, il dit à ses disciples, « Allez au puits. Là, vous trouverez un homme qui va chercher de l'eau. » Pour vous, ça ne veut peut-être rien dire du tout, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que à l'époque, c'était le travail des femmes d'aller chercher de l'eau au puits. Et donc, si c'est un homme qui va chercher de l'eau, ben c'est qu'il est célibataire. Donc, c'est un Essénien, forcément. Et donc, il va faire la scène chez un Essénien, le dernier repas. Et d'ailleurs, si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, on vous montre la chambre haute où a eu lieu le dernier repas de la scène, qui se trouve dans le quartier essénien. Donc, probablement que la dernière scène du Seigneur était en fait un rite essénien et pas du tout pascal, comme on l'a dit. D'ailleurs, ça ne colle pas. L'histoire de la Pâque, du repas pascal de Jésus ne colle pas parce que le repas pascal se prend debout et là, ils sont couchés, enfin, rien ne va. Donc, c'était un rite essénien. Ensuite, il y a d'autres versets de l'Évangile qui sont clairement d'influence essénienne, comme par exemple quand Jésus dit « Si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière, et si ton œil est en mauvais état, tout ton œil est dans la ténèbre », ça, c'est de la théologie essénienne à 100%. Donc Jésus avait un lien avec les Esséniens. Or, il y avait une coutume chez les Esséniens que quand un individu avait manqué à certaines règles de la communauté, pour le punir, on l'enfermait quelques jours dans un tombeau. Ces tombeaux, c'était des grottes importantes dans lesquelles on pouvait s'asseoir, on pouvait vivre et se tenir debout, et dont la porte était fermée par une grosse pierre que l'on roulait devant. Et donc ces tombeaux esséniens étaient une façon de punir quelqu'un que l'on considérait comme ayant fauté. C'était une sorte de cachot, en quelque sorte, ou comme le cabinet noir dans lequel on enfermait les enfants du temps de vos grands-parents, parce qu'ils avaient fait des bêtises. Et donc, mon hypothèse, c'est la suivante. Peut-être que Lazare n'était pas si mort physiquement que ça, mais qu'il avait été enfermé vivant dans un tombeau pour dire que pour la communauté, pour la société, il était comme mort. Donc, vous voyez, j'ai même pas besoin de catalepsie. Et qu'autrement dit, il était mort du point de vue des liens familiaux, du point de vue des liens communautaires. Comme ce que je vous avais dit à propos du père du fils prodigue qui dit « Mon fils était mort, il est revenu à la vie ». Donc on disait « Celui-là, il est mort pour la communauté, on l'enferme dans un tombeau ». Et donc voilà ce jeune homme, peut-être ce jeune homme fautif, rejeté, condamné, exclu. Et Jésus arrive et il le libère. C'est très cohérent hein, par rapport à l'ensemble de l'attitude de Jésus, qui n'a jamais cessé de lutter contre toute forme d'exclusion, et en particulier de lutter contre la religion quand elle-même se mêle d'exclure les gens, de les traiter de pécheurs, de les mettre au banc, de les rejeter de la société. C'était le cas des lépreux, qui étaient chassés des villes, qui n'avaient pas le droit d'aller au temple, on ne pouvait même pas avoir de contact. Et Jésus, il réintègre le lépreux. C'était le cas des prostituées, et Jésus réintègre les prostituées. C'était le cas des péagers, des pécheurs, Jésus réintègre. Et à chaque fois, il dit, mais arrêtez au nom de Dieu d'exclure les gens. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Vous êtes là pour dire, lui, il est digne d'être chez nous et pas lui. Comment est-ce qu'on peut refuser même la communion quand on le fait à qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ, parce que quelqu'un n'en serait pas digne? Et là, je condamne toute forme de religion, parce que du temps de Calvin, il y avait des pièces, des méros pour justifier qu'on avait le droit de communier. Donc les protestants sont tombés aussi dans ce pharisaïsme terrible. Mais aujourd'hui, je mettrai toute mon énergie pour dire que l'Église doit être ouverte à tous. Tous, sans condition, baptisés ou non baptisés, chacun est bienvenu comme il est. Et donc Jésus a sans arrêt joué comme cela. Et ensuite, il s'agit de l'Église, mais il s'agit aussi de la famille, de la société. Comment nous pouvons rejeter quelqu'un parce qu'il a fauté, parce qu'il n'était pas comme on voulait, et du coup on l'enferme, on dit « toi tu ne comptes plus, tu es mort pour moi, tu es mort pour la communauté, mort pour la société, mort pour tout le monde ». Et en plus, vous voyez tous ces gens qui en rajoutent et qui l'enferment dans un tombeau, alors comme ça on a la paix, on le fout dans un trou, on met une pierre devant et puis terminé. Et Jésus ne fait pas comme ça. Il va vers la personne rejetée, il la libère des accusations, il la relève, il la réintègre dans la société et c'est ce qu'il fera toujours. Eh bien je crois que ce message est d'autant plus fort pour moi. Plutôt que de faire croire dans une guérison, de réanimation d'un mort auquel personne ne croit. Aujourd'hui, en tout cas, moi je fais sans arrêt des services funèbres. Quand est-ce que je prie pour que Jésus ressuscite le mort dans le tombeau? Personne n'y croit. Enfin, même dans nos liturgies, on n'y croit pas. On fait des services funèbres, on prie pour les vivants, pour les consoler. On ne prie pas pour ressusciter les morts. Donc ce récit, il faut arrêter de lire les choses au pied de la lettre. Par contre, le sens est là tellement réel, tellement touchant, tellement vrai. Et non seulement qui nous met en garde, nous, par rapport aux autres. Et je l'ai fait suffisamment en disant, prenons garde, nous aussi, de ne pas enfermer les autres dans des tombeaux. Prenons garde de ne pas exclure, de ne pas condamner, de ne pas juger les autres à un tel point qu'ils ne peuvent eux-mêmes plus se relever tellement ils sont enfermés dans le regard que l'on porte sur eux. Et puis aussi pour nous-mêmes, parce qu'on n'est pas tous des pharisiens, mais nous aussi, nous avons des fautes, des culpabilités vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos plus proches, vis-à-vis de nos enfants, de nos conjoints, de nos parents, de nos amis, de tout le monde. Et toutes ces fautes qui nous enferment dans la culpabilité, avec parfois les autres qui en profitent un peu pour en rajouter, faut bien le dire. Mais tout cela, eh bien, c'est le Christ lui-même qui vient et qui nous libère des découragements, qui nous libère du désespoir, qui nous libère de la crainte et qui nous libère de tout cela. Et en passant, même quand nous allons bien, eh bien, il nous dit « laissez-le aller ». Il nous invite nous-mêmes à ne pas condamner, à ne pas juger sévèrement, mais au contraire à aider les autres à se relever, à rouler les pierres, d'enlever les pierres qui ferment les tombeaux et qui nous dit simplement soit pour nous qui jugeons, soit pour nous qui sommes jugés, acceptez d'aller vivre avec les autres parce que vous avez été relevés. Et s'il y en a un qui pourrait vous condamner, c'est bien Dieu, le Christ. Et lui ne vous condamne pas. Et lui, il vous dit, mais tu peux sortir de ton tombeau. Tu peux te promener la tête haute dans la société. Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être. Et ce n'est pas la peine de te sentir coupable, ni de rester enfermé comme un animal terrorisé qui se terre au fond de son terrier. Mais tu peux sortir la tête haute. Et ce n'est pas à toi d'essayer d'enlever toi-même tes bandeaux. C'est aux autres, retirez-lui ses bandelettes et laissez-le aller. Et donc, oui, nous avons le droit de le faire. Ainsi, le Christ nous libère et nous invite à libérer. Le Christ nous aime, nous libère de toute culpabilité. Et quand même nous sommes au plus profond du ravin de l'ombre et de la mort, eh bien, il nous mène à la vie. Et donc, je pense que vraiment, ce message de résurrection que l'on prêche semaine à semaine depuis Pâques, eh bien, il est encore plus vrai et plus vivant que jamais. Et ce récit de Lazare est vraiment la plus belle histoire qui soit, parce qu'elle est notre histoire, de nous par rapport aux autres et des autres par rapport à nous et du Christ qui vient au milieu de tout ça et qui avec tant de tendresse, de patience et de temps nous mène de la mort à la vie. Amen.